Salut, bienvenue sur Be My Fetish, le podcast qui s'intéresse aux paraphilies légales, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques, ou aussi appelées pratiques sexuelles alternatives. Ici, on va explorer certaines pratiques comme le fétichisme, le BDSM et bien d'autres pratiques, afin que le fait d'en parler et de le réaliser ne soit plus ni une honte ni un tabou, et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement. Cet épisode s'intéresse à la fétichisation des personnes arabes et ou musulmanes. Certains propos rapportés qui seront évoqués ici seront donc des propos à caractère raciste, islamophobe, sexiste, discriminatoire, etc. Pour ce nouvel épisode qui sera divisé en deux parties, je reçois Jamal, créateur du podcast Jeans, le premier podcast qui s'intéresse à la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Dans la première partie de cet épisode, nous allons nous intéresser à la fétichisation des personnes arabes, noires, musulmanes, de la sexualisation, de l'objectification et de la déshumanisation dont elles sont victimes à travers les fictions, le porno, pour assouvir les désirs des personnes blanches. Nous évoquerons aussi la question des fantasmes érotiques qui sont créés autour de ces personnes et qui emprisonnent leur sexualité et leur capacité à s'autodéterminer. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bonjour. Alors moi, c'est Jamal. Je suis un vieux jeune homme de 32 ans. Je suis né au Maroc. J'ai été élevé là-bas, dans une culture, on peut dire, arabo-musulmane. Je suis citoyen marocain et citoyen français, fier d'être les deux. Et je suis derrière le podcast Jeans, qui gagne à être connu.
Effectivement, je suis bien d'accord. Et justement, donc, Jeans Podcast, c'est le premier podcast sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Et donc, avant de nous intéresser au sujet qui nous réunit donc tous les deux aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept derrière ce super podcast qui vient d'ailleurs de fêter ses un an il y a pas si longtemps?
Oui, c'est vrai que ça fait presque... Non, ça fait effectivement un an que Jeans est sorti. Jeans, ça saute à pieds joints dans la sexualité, dans le genre, dans le féminisme. Et c'est à l'intersection des identités arabes et ou musulmanes en France. Et bientôt, du coup, d'ailleurs, la saison 2, elle arrive normalement après cet hiver pour nous réchauffer un peu les cœurs, pour parler un peu de sexualité, pour parler un peu d'amour. En français, mais aussi beaucoup en anglais.
D'accord.
Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un projet qui a été assez bien reçu au sein de la communauté arabe et ou musulmane en France, mais il y a beaucoup de gens qui sont francophones au Liban, au Maroc, en Tunisie, voilà, en Belgique, en Suisse, au Canada. Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient anglophones ou arabophones qui n'ont pas eu accès à ça. Mm. Et donc, vraiment de vouloir se répandre un peu plus géographiquement. Et puis surtout pour toucher les personnes qui se sentiraient concernées par le propos. Alors le propos, c'est quoi? C'est jeans, en fait, ça veut dire sexe en arabe. Ça a la même racine que... le sexe, la sexualité, mais aussi quelque part le genre. Alors on peut dire no en arabe, mais ça se dit aussi de qualifier le genre par le mot jeans. Ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est la même racine étymologiquement que le jinsia, qui veut dire l'identité nationale. Mm-hmm. Donc c'est à la fois la nationalité, le genre, la sexualité, le sexe, et donc ça vient englober tout ça. Et ça implique tout un tas de choses taboues qui, croisées avec l'islam ou l'arabité, donc l'identité arabe, sont super complexes et que j'ai essayé de déconstruire avec des intervenants exceptionnels. Puis c'est juste à partir de mes propres études, vraiment dans mon petit coin, j'ai lu 400 bouquins sur les questions du genre, de la sexualité dans le monde arabo-musulman et je me suis lancé, du coup, effectivement, il y a un an, pour souffler cette petite bougie d'anniversaire il y a quelques jours. Je me suis dit que j'allais faire un bilan un peu de cette année et c'est vrai que c'est plutôt encourageant. Il y a plus de 60 épisodes, Il y a presque 100 000 écoutes uniques, il y a plus de 4 200 abonnés. C'est vraiment quelque chose qui est devenu une sorte de référence dans le domaine du féminisme intersectionnel, de la sexualité positive pour les personnes arabes et musulmanes. Et voilà, donc j'ai hâte de délivrer à tout le monde une deuxième saison qui est pleine de nouvelles nuances, qui fait encore l'éloge de la nuance, bien sûr, parce que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société française et ailleurs, bien sûr, c'est l'apologie du dogmatisme, de l'extrémisme, qu'il soit de droite ou. Enfin, peu importe, c'est vraiment comment revenir disséminer ces espèces de réflexions pour pouvoir justement inséminer la nuance dedans. C'est-à-dire vraiment comprendre mieux les choses en se disant que tout n'est pas figé et gravé dans le marbre. Et je pense que c'est ça aussi qui pourrait aider de plus en plus de personnes dans le monde arabe ou à l'extérieur du monde arabe, mais qui seraient concernés par cette intersection entre l'arabité, l'islamité et la sexualité.
Oui, complètement. Je pense que ton podcast, effectivement, a apporté un vent frais, en fait, sur le monde et sur ces questions. Et il était très attendu. Et je pense que la saison 2 le sera tout autant, voire même plus. Parce qu'effectivement, maintenant, t'as un vrai public qui grandit de plus en plus. Et donc, pour ça, je te félicite parce que effectivement, tu
Merci.
abordes plein de sujets tabous, en fait, qui nous touchent. Enfin, qui touche voilà différentes personnes de manière à des degrés plus ou moins forts et qui pose des questions particulièrement importantes, intimes sur donc la sexualité, le genre, parfois à l'intersection avec d'autres questions, des questions de société et des questions politiques. Et je pense que c'est fondamental et c'est important effectivement de se questionner sur ces différents points. Donc encore une fois, merci pour tout ton travail. Et donc aujourd'hui, si on est là, c'est parler effectivement sexualité de personnes arabes et ou musulmanes, et aussi de la manière dont ces personnes sont perçues dans la société. Et donc on va parler notamment de la fétichisation en fait de ces personnes. Mais ça, on y reviendra. On entend souvent ou on voit souvent certaines personnes qui parlent de préférences, de désirs, de fantasmes par rapport notamment aux personnes arabes et ou musulmanes, qu'elles le soient réellement ou que ça soit seulement supposé. En tant que donc toi, personne musulmane et perçue comme arabe, ainsi qu'en tant que podcasteur spécialiste donc des questions qui portent sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France, est-ce que tu peux nous parler donc de la fétichisation de ces personnes? Comment est-ce que ça prend forme exactement?
Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus, effectivement. Déjà pour moi, il n'y a pas de préférence ethnique ou de désir ou de fantasme particulier pour une race. Il n'y a que du racisme sexuel, plus ou moins prononcé. C'est-à-dire qu'il y a différentes strates d'études, de la cyber-rencontre à la rencontre réelle et jusqu'à la mise en couple, en fait. Donc, il y a trois strates, trois volets d'interaction où cette fétichisation raciale, elle peut se déployer. J'avais discuté donc avec mes intervenantes dans le podcast sur Grindr par exemple, donc qui est l'application de rencontre pour personnes gays. Il y avait un homme blanc qui disait à un homme arabe, j'aimerais boire tes liqueurs d'Orient, qui pensait que c'était trop mignon et poétique de dire ça. Il y en a qui disent aussi des trucs beaucoup plus trash et violents. Est-ce que tu vas m'enculer avec ta bite lubrifiée à la harissa? Il y en a d'autres qui disent qui vont aller dans un contexte beaucoup plus islamophobe plutôt que raciste, qui vont vouloir se faire, je cite, exploser le cul par un musulman. Ou encore, il y en avait un qui disait je cherche un rebeu terroriste pour une bonne éclate. Donc en fait, c'est ça, c'est ce principe-là de. En plus, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de dating comme ça, donc les Grindr, les Tinder, etc. Il y a beaucoup plus d'anonymat en fait, il y a beaucoup moins de façons de confronter les personnes directement, donc on se lâche sur cette fétichisation de manière totale. Et j'ai eu des témoignages de mecs cis, blancs, qui disaient j'adore les femmes arabes parce qu'elles sont super sexy, j'adore coucher avec les beurettes parce qu'elles sont, elles font leur mijaurée comme ça, mais au pire en fait elles sont chaudes, elles se lâchent. J'ai eu aussi des témoignages en couple avec des petits noms mignons, voilà, qui sont en fait tout à fait dégoûtants, du style mon petit chocolat, ma tigresse, ma petite rose des sables. Enfin, à chaque fois, ça revient à la couleur de peau, ça revient à la sauvagerie, ça revient à l'origine. Il y en a un qui disait aussi, j'adore que ma femme me fasse une danse du ventre avant de coucher ensemble. Et donc il y a vraiment cet orientalisme-là, cette idée que ça vient d'un ailleurs qui est envoûtant, qui est excitant. Et pour répondre plus clairement à ta question par rapport aux populations arabes ou musulmanes, moi je reprendrai d'abord les termes employés par un académicien qui s'appelle Todd Shepard dans Mal des colonisations, qui a étudié en fait la sexualité des hommes arabes à partir de la fin de la guerre d'Algérie, oui. Et je dirais qu'il y a, moi j'avais retenu ça de manière très scolaire avec les 3 V qui qualifient les stéréotypes dont sont affublées les personnes arabes et ou musulmanes, c'est voleur, violent et violeur. Donc l'arabe, il est construit depuis l'imaginaire colonial, depuis les films comme Pepe el Moko ou Un de la Légion, où on voit Fernandel, qui est un monument de la comédie française, qui traite les Arabes de bicots, de sauvages. Et malheureusement, ces formes d'opinion qui sont super stigmatisantes ne font que se réincarner et se renouveler avec la montée d'un extrémisme de droite banalisé aujourd'hui, évidemment, encore plus maintenant que les présidentielles arrivent. Alors concernant les femmes, il y a grossièrement, donc les hommes, il y a les hommes voleurs, violents, violeurs. Et concernant les femmes, il y a grossièrement 2 archétypes. Construit par les affiches, les médias, le cinéma, les femmes qui portent le voile et qui doivent être dévoilées sur le public pour voir enfin le trésor qui est caché comme un petit bonbon en fait qu'on déroulerait pour y goûter la sucrerie quoi. Ce corps féminin qui aurait dû être disponible pour le regard des hommes blancs colons, il ne l'est pas parce qu'elle est voilée et donc du coup il faut la dévoiler. Et alors l'autre archétype, c'est celui dont de la femme dont le corps est juste entièrement dénudé et qui est mis à disposition, encore une fois, du colon, comme un corps lubrique, comme un corps lascif, qui danse pour lui, qui chante pour lui, qui couche avec lui, contre quelques sous, contre je sais pas moi, des victuailles. Voilà, vraiment cet imaginaire-là, un peu entre le médiéval et les cours d'Orient, voilà, dans les palais orientaux, où ce corps serait hyper sexualisé. Ce corps qui en fait à la fois est ensorcelant, c'est un corps qui fait peur du coup, parce que c'est la sorcière en fait, cette femme-là, c'est sa faute, si elle est tellement érotique, c'est de sa faute d'être aussi dévergondée et de me dévergonder en tant qu'homme homme blanc colon. Donc il y a vraiment cette chose-là qui se construit dans le rapport où il y a une sorte de fascination-répulsion évidemment, on est fasciné par ce corps-là qui se dénude devant nous parce que. On a envie de boire ces liqueurs d'Orient, on a envie d'y toucher, c'est disponible pour moi. Et à la fois, si j'y touche et que je couche avec, alors c'est pas de ma faute parce que c'est elle qui m'a ensorcelé, c'est elle qui m'a envoûté, c'est elle qui m'a mis des choses dans mon verre, c'est elle qui. Voilà, donc c'est vraiment cet imaginaire-là. Et en France, ils ont toujours été assez estomaqués par la lubricité avec laquelle les femmes d'Orient se donnaient, entre guillemets, aux hommes, enfin, selon eux, hein. Et en même temps, quand elles portent un haïk ou un hijab, elles doivent être libérées d'un joug patriarcal qui n'existerait pas en Occident, l'Occident qui est le grand pionnier de la libération de la femme. Alors déjà, ça, non. Non, ça, on arrête de vouloir dévoiler, on arrête de vouloir voiler, on arrête tous les archétypes autour de l'arabe, de l'africain, du rebeu, de la beurette. Elles ne sont pas des beurettes de quelqu'un. Il faut éliminer ce mot de vocabulaire. C'est dépréciatif, c'est hyper diminutif, c'est révélateur aussi de tellement d'histoires d'oppression. On doit arrêter aussi avec l'imaginaire de la grosse bite du rebeu ou la grosse bite du noir. On doit arrêter avec l'animalisation des corps noirs et des corps arabes, comme étant, je cite, des sauvageons ou des macaques ou des panthères noires ou des bites de chameau, je ne sais quoi. Donc voilà, c'est pas drôle, c'est insultant, c'est pas excitant et c'est juste ça le racisme sexuel en fait.
Parce qu'au final, tout ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est déjà une absence totale de consentement, que ce soit par rapport Donc, enfin, à toute personne, en fait, et là je prends l'exemple par rapport à ce que tu disais, par rapport aux femmes qui devraient être dévoilées, on s'accapare en fait le corps de la femme, on sait et on décide ce qui est le mieux pour elle, en fait, soi-disant pour la libérer, et de l'autre côté, effectivement, t'as les femmes, tu disais, elles sont dénudées, et celles-ci, on va les utiliser comme des objets. Donc là, il y a un paradoxe, en fait, d'un côté, on
Bien
veut
sûr.
libérer, et de l'autre, en fait, on utilise, on s'approprie la femme et on la réduit quelque part en esclave sexuelle. Donc, enfin, ça n'a pas de sens. Et il y a un côté aussi déculpabilisation aussi dans ce que tu disais, où c'est quelque chose qui revient. De toute façon, c'était pas de ma faute, elle était habillée comme ça, ou elle a dansé devant moi, ce genre de choses. On se déculpabilise, on se déresponsabilise complètement, en fait. Alors que la
Tout à
première
fait.
chose à retenir, c'est qu'on est responsable de notre corps. Et avec ça vient aussi un consentement qu'on doit d'abord acquérir, demander à la personne avant d'entreprendre quoi que ce soit avec elle. Et que si elle ne le donne pas de manière claire et explicite, ça veut dire que rien d'autre n'est possible. Et ça s'applique,
Absolument.
selon moi, pour tout le monde, quel que soit le corps en question, quelle que soit son origine, sa religion, etc. Et pour citer sur un autre point, un académicien, Mehamed Mag, donc professeur associé d'études françaises au Smith College, donc dans le Massachusetts, aux États-Unis, qui est notamment auteur de Sexagon, Muslims, France and the Sexualization of National Culture, qui a dit, donc, dans le cadre d'un interview avec Committed, il dit: je pense personnellement que tout choix de partenaire sexuel ou romantique est socialement construit, c'est-à-dire informé par l'éducation, le positionnement et les expériences positives et négatives qui forment le parcours d'un individu quelconque. Je trouve qu'effectivement, c'est ça qui ressort aussi de ce que tu dis, c'est qu'il y a tout un tas d'éléments, en fait, qui ont été érigés en généralité, en fait, qui vont construire des images, des imaginaires, en fait, sur les personnes arabes et ou musulmanes, qui viennent, en fait, les déshumaniser, les animaliser. Tu as parlé de panthères, de tigresses, et en fait, qui conduit à les déshumaniser, à les hypersexualiser. On en fait tout simplement des objets sexuels qui seraient à la disposition des personnes blanches, en fait, qui se placent en position de dominant, en fait, dans un tel contexte.
Absolument. Absolument. Et c'est, enfin, juste par rapport au point que tu révèles dans cet hexagone, moi, ce qui m'insupporte vraiment beaucoup, c'est quand on me dit non, moi, j'aime que les noirs. Ou jamais je coucherai avec une chinoise. Ou je ne sais quoi. Ça, c'est insupportable de à quel point les gens ne se rendent pas compte, non seulement qu'il y a une sorte de racisme sexuel, mais en plus de racisme tout court. Dans ce qui est dit ici, mais en plus qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au fait de à quel point ça se joue d'eux, comment leur désir a été construit dans le temps, et que leur jouissance est conditionnée par ça. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit métisse pour que je puisse envisager une rencontre sexuelle. Il faut que il soit noir, grand, avec une grosse bite, pour que je puisse me dire que je vais être bottom, ou voilà, pour lui, dans une relation gay, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment comment on construit un imaginaire où on n'est plus sur les hommes ou les femmes, mais l'homme noir et la femme et la beurette et l'homme arabe. Et donc, on est sur un terrain de l'unique et de l'archétype. On n'est plus sur un terrain de chacun peut être comme il est, comme il veut, comme il est constitué, avec le corps qu'il a. Et donc c'est ça la grande problématique, c'est que on construit à chaque fois, non mais forcément les Arabes ils vont être violents au lit, forcément les meufs chinoises elles vont être soumises au lit, ah, forcément les mecs noirs gays ils vont être dominants. Voilà, donc c'est ça la problématique principale, c'est que
Le
Complètement.
forcément, il est construit socialement. Voilà. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, donc c'est des constructions sociales, des clichés, des stéréotypes qui sont véhiculés dans énormément d'espaces, en fait. Je pense notamment aux films ou aux vidéos pornographiques où c'est des idées, des stéréotypes et un imaginaire, en fait, qui est très présent. Je pense notamment, je rebondis encore sur donc l'article qui a été écrit par Marco Fernandez, donc Fantasme ethnique et fétichisation dans la drague, qui a été écrit pour le magazine, comme je disais, Committed, qui dit notamment que le choix du partenaire dans le cas de la fétichisation raciale serait inscrit dans une logique d'assujettissement de la personne à un rôle spécifique, limité et très problématique. Je trouve que c'est vraiment ça, en fait, c'est juste réduire la personne à une caractéristique physique. Mais qui serait parfois réel, mais la plupart du temps en réalité supposé ou même juste c'est une généralité qui a été faite par rapport à la catégorie de personnes à laquelle appartiendrait la personne sexualisée en question justement. Ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure par rapport notamment aux femmes noires. Il y a la féministe et écrivaine donc Bell Hooks qui est décédée donc là il y a quelques jours parce que nous sommes en décembre 2021 et donc elle est malheureusement décédée il y a quelques jours. Et donc dans son ouvrage publié en 1997 Woods of Passion, Writing Life, l'écrivaine a écrit à propos des femmes noires que, je cite, l'homme blanc les voyait comme des barbares sexuels, des choses sauvages, des putes ou des prostituées. Donc ça, il y a cette idée selon laquelle en fait on peut disposer de ces personnes, des personnes noires, des personnes arabes, musulmanes, mais aussi du coup des personnes comme tu le disais asiatiques, et que ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, de simples objets sexuels à la disposition, en l'occurrence des personnes blanches, pour satisfaire leur fantasme et leur plaisir. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est donc malheureusement le fait que la fétichisation des personnes arabes et ou musulmanes va rencontrer parfois un autre fantasme, entre guillemets, un fantasme que je place entre guillemets, c'est celui du viol. Et c'est pas quelque chose de récent, c'est assez ancien. C'est expliqué dans l'épisode 1 de la série documentaire Le sexe en bref, disponible sur Netflix, qui explique donc que le Sheikh, qui est un ouvrage donc publié en 1919, qui a ensuite été adapté en film, donc il raconte en fait l'histoire d'une femme blanche qui va être enlevée par un prince qui est décrit comme donc arabe, sexy et violent, qui va par la suite donc la violer. Et elle va tomber amoureuse, donc on retrouve le syndrome de Stockholm, où la personne kidnappée tombe amoureuse ou commence à éprouver des sentiments pour son ravisseur. Et en l'occurrence, le film a été un vrai succès, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et le documentaire indique aussi que dans les années 2000, par exemple, durant la guerre en Irak, le genre décrit comme sexy chic dans les romans d'amour a connu un regain en fait, et du coup, ce qui marque un jeu de pouvoir racial, de sexe forcé, non consenti, de viol tout simplement, avec un mélange de romance. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est un chic et à ton avis, pourquoi des figures telles que le chic ou encore le beurre de cité Domi sont-elles des objets de fétichisation?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, quel horrible film, le Sheikh, parce que moi, étant cinéaste, j'ai vu beaucoup de films anciens, dont les films coloniaux qui sont affreusement stigmatisants. Le Sheikh, en fait, c'est la figure archétypique de ce danger venu d'ailleurs pour l'Occident. C'est-à-dire que c'est le patriarche de l'Orient. C'est le Sheikh en arabe, c'est un maître ou un vieux Sheikh. Il est maître parce qu'il maîtrise la vie de par sa sagesse, de par sa connaissance de l'islam, voilà, parce qu'il a des connaissances scientifiques ou religieuses. C'est aussi un chef politique, c'est un chef religieux, mais c'est aussi un chef politique qui est respecté pour son aura quasi prophétique, quoi. C'est très marrant d'ailleurs parce que, avec le temps, le dialecte marocain et algérien, l'équivalent féminin de cher, c'est devenu chéra. Mais la chéra, qui était attribuée à des femmes savantes, chanteuses, danseuses, est devenue avec le temps et après la colonialité, le synonyme du mot pute. Une chéra, c'est devenu une pute. Là où le cher a conservé sa place de maître sage du savoir et vieux maître, voilà, bah la chéra, c'est devenu une pute. Donc ça vient aussi de la colonisation, tout ça. Hein. J'avais reçu une historienne féministe qui s'appelle Christelle Tarot, qui en parle mieux que moi, me disait justement que les colons français avaient construit des quartiers réservés où les travailleuses du sexe, les juifs, les artistes, et tout le divertissement, en fait, était excentré de la ville. Et depuis, du coup, comme ils ont rassemblé tous les marginaux, entre guillemets, dans un coin d'une ville où on pouvait y faire tout le chaos qu'on voulait y faire, et bah du coup, les soldats français à l'époque coloniale, ils venaient servir, quoi. Donc, et depuis, la confusion du divertissement à vouloir danser dans la rue avec des castagnettes ou avec voilà, faire la danse du ventre et puis rentrer dans les maisons closes et puis tout ça, c'est devenu de confusion dans la rue. Donc c'est vraiment ça qu'on parle de filles de rue aussi, c'est le principe aussi de ce travail du sexe à l'époque. Et donc du coup les prostituées étaient confondues avec les chérettes, donc les femmes chères, quoi. Donc c'est assez intéressant comment dès que ça prend une consonance féminine, ça prend tout aussi non seulement la fétichisation sexuelle, mais aussi la diminution dans le sens de la valeur. Voilà. Donc en ce qui concerne les figures de fétichisation, en fait, il s'agit toujours de stratégies de conquête ou de reconquête. En plus, malheureusement, c'est des termes à la mode en ce moment à cause de l'autre Gremlins. Il y a vraiment une stratégie de conquête et de reconquête des territoires sexuels en France. Donc, c'est le cher, c'est ce vieux maître politique et musulman et voilà qui va venir potentiellement outrepasser les limites de la France et venir s'y insérer pour potentiellement, encore une fois, voler, violer, violenter. Et donc, quand aujourd'hui on se rapporte à notre référentiel quotidien, on pense tout à fait aux banlieues, du coup. C'est quand l'extrême droite parle des banlieues, il parle de reconquête territoriale. Donc c'est un lieu horrible où régnerait le chaos et la violence, où les tournantes dans les caves sont légion et que les femmes sont violées tous les jours. Et voilà. Et donc, c'est comme tu parlais de beurre de cité dominant, moi j'ai envie d'évoquer la figure quand même assez intéressante et incontournable du porno gay qui s'appelle François Saga. Et François Saga, en fait, c'est un acteur français qui est né de parents français et qui a fait ses débuts dans le film pornographique gay chez Citébeurre, donc un fameux site porno gay spécialisé dans les figures d'hommes gays arabo-musulmans, sous le pseudonyme de Hezdin, donc un nom bien arabe. Et il réunissait toutes les composantes de l'archétype de l'arabe viril, la musculature, sa barbe, sa pilosité corporelle, son pénis de 21 cm, et bien entendu, une qualification corporelle qu'il avait, c'était son tatouage islamique, avec un croissant lunaire sur le dos et une étoile. Donc pour qualifier son appartenance quasi religieuse en fait à ce monde venu d'ailleurs. Donc lui comme d'autres ont exploité cet imaginaire où l'interdit religieux prédomine avec des mises en scène avec un décor de style maghrébin, il y a des chichas, il y a des plateaux dorés, il y a des salons marocains, des tapis perses, etc. Avec une fétichisation aussi des banlieues avec les caves bétonnées, avec les endroits un peu désertés où il y a des morceaux de shit par terre. Et vraiment cet imaginaire-là de on se met en sage au taquini, on met une casquette, des chaînes, on parle en wesh, et du coup c'est excitant parce qu'on va se faire prendre par cet arabe dominant. Donc c'est vraiment cette idée-là que j'aime bien dans cette question que tu as posée, en fait, ce rapport entre le cher et le beurre d'omi de cité, ben, c'est la même chose finalement. C'est on passe de la bête humaine à l'indigène, puis de l'indigène à l'immigré, puis de l'immigré au français arabe, et puis à l'arabe qui trouvera jamais sa nationalité française, même s'il l'a déjà. Et maintenant qu'on parle de français arabe, il y a aussi maintenant de la réappropriation des termes comme les indigènes de la République. Maintenant, on a cette tendance-là aussi à pouvoir se réapproprier les termes. Et en tout cas, la figure de l'arabe, elle transgresse toujours les frontières de la France, de la blanchité, bien sûr, et de la définition du français de souche, qui est du coup très cher à l'extrême droite, encore une fois.
Et je suis tout à fait d'accord, et ça rejoint ce que tu disais en fait, qu'on le voit donc à travers l'image du chir, du coup que j'ai très mal prononcé depuis le début, puisque ça s'écrit avec un K et je le disais chic, mais ça
Un
se dit.
KH, mais ça c'est un piège.
Voilà, donc ça se dit chir. Donc soit l'image du chir, donc voilà, qui est quand même assez ancienne par rapport à l'image du beurre. D'homie de cité qui est du coup assez récente, eh bien on voit que même en fait à travers le temps qui évolue, il y a toujours en fait cette exotisation, cette hypersexualisation par rapport à l'origine, qu'elle soit réelle ou supposée, ou par rapport à la couleur de peau en fait de la personne qui je sais pas en fait apporterait une saveur particulière à la sexualité de cette personne. Et c'est là où ça pose problème, en fait, c'est qu'on vient créer, poser une image sur cette personne, en fait. On est en train de projeter des choses qui sont plus basées sur des stéréotypes, et on entoure en plus cette personne de violence, en fait. C'est au final, c'est ce qu'on projette. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression
Moi,
qu'à
je
chaque fois,
pourrais dire.
effectivement, c'est l'image qu'on construit, comme tu dis, de personnes dominantes, violentes. Tu disais un arabe qui va t'exploser le cul. On a dit le chir qui va violer la femme blanche qui l'a kidnappée, etc. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, effectivement, tu l'as dit, dans le porno, je l'évoquais aussi au début, et dans différents, y a différentes plateformes, différents productions pornographiques qui utilisent cette image complètement construite et stéréotypée, enfin complètement fausse en fait.
Tout à fait, évidemment, complètement en lien avec ce que tu dis. Le principe même des sites pornographiques aujourd'hui, c'est de chercher un trafic de plus en plus important. Et du coup, les catégories sexuelles aujourd'hui dans les sites pornographiques sont absolument affligeantes. Il y a de plus en plus de vidéos qui reproduisent les scènes de viol. En plus, peuvent reproduire les scènes de viol contre les femmes qui sont racisées, contre les femmes qui sont racisées et qui peuvent porter le voile. Il y a vraiment cette tendance-là à se dire que voilà, on vient pousser en fait la fétichisation au maximum. Et en fait, si je peux prendre quelques temps pour revenir sur des définitions en fait, parce que c'est vraiment difficile de parler de ce sujet sans revenir vers, pour moi, ce qui fait la base du fétichisme. Parce que le fétichisme, en fait, moi, ça me renvoie directement aux trois essais sur la théorie de la sexualité de Freud. Et si je devais faire comme ça une sorte de récap de définition selon moi, c'est que il y a d'une part le fantasme érotique, c'est-à-dire c'est une représentation quasi rêvée ou un scénario qui va stimuler la sexualité et qui peut même devenir obsessionnel. Voilà, mon fantasme, c'est de coucher dans une cabine d'avion, voilà. C'est la condition unique du plaisir pour que la sexualité soit épanouie. Ce qui est marrant, c'est que il faut que ce soit quasi rêvé, parce que le fantasme, fantasma en grec, ça veut dire fantôme. C'est-à-dire que ça ne doit pas vraiment exister, parce que si ça s'accomplit, alors le fantasme peut s'étioler, il peut voilà,
Perte
se
de sa
perdre,
saveur.
de perdre sa saveur, exactement. Et donc, du coup, tu as ce côté-là du fantasme érotique. Après, tu as le côté du fétichisme sexuel, ce qui n'est pas la même chose. Le fétichisme sexuel, c'est une sorte d'excitation sexuelle, bien sûr, provoquée par une situation ou une matière, comme le cuir, ou une partie du corps, ce que certains appellent le partialisme, c'est-à-dire j'aime les pieds, par exemple. Voilà. Et donc, typiquement, il y a des hommes gays qui adorent la barbe fournie et la peau basanée de leur partenaire sexuel, voilà, arabe, et des hommes hétéros qui aiment les mains féminines tatouées au henné de leur jeune partenaire. Et donc ça veut dire que il y a vraiment là, au-delà du fantasme, il y a un accolement d'un fait social, culturel, anthropologique qui vient se coller à la définition qu'on a du fantasme. Et donc du coup ça devient une sexualité qui est quasiment exotique. C'est-à-dire qu'il y a une exotisation des corps. On imagine les femmes vahinées qui dansent pour notre regard. Il y a les femmes arabes prudes à qui on doit apprendre à baiser. Les femmes indiennes qui sont épicées. Ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, vraiment, ce genre de choses qui, moi, complètement me révoltent. Il y en a qui me disaient j'adore les femmes asiatiques parce qu'elles ont des chattes bien serrées. J'adore leurs petits pieds, elles sont soumises au lit. Enfin, on est en plein dans le hashtag Stop Asian Hate, quoi. C'est du hate, en fait, ça. C'est pas de l'amour, c'est pas de la sexualité, c'est du racisme sexuel. Et c'est vrai que, pour revenir à ce que tu disais, la pornographie moderne, elle y est pour beaucoup. Parce que les scénarios et les catégories YouPorn sont des scénarios empreints de cette violence-là. Et ça a un impact sur notre vie intime collective. C'est marrant parce que il n'y a pas de catégorie white dans le porno. On ne peut pas sélectionner blanc. La blanchité, c'est la neutralité. C'est ce qui est censé être. C'est la valeur et la couleur maîtresse du monde. Et c'est sur ça que tout le reste doit être comparé. On n'a pas white comme on a des black ou latino ou arabes ou musulmans ou je ne sais quoi. Ces cases-là sont construites par rapport à ce qui est blanc et ce qui a été dans la domination. Donc en fait, c'est ça l'expérience discriminatoire qui peut se passer. Évidemment que l'héritage colonial, il influence négativement encore aujourd'hui nos relations intimes. Et le racisme sexuel, ça implique un rejet sexuel sur la base de la couleur de peau ou au contraire, ça implique un stéréotype ethnosexuel, c'est-à-dire un stéréotype qui est basé sur l'ethnicité ou la race, avec un certain attrait pour ça. Donc cette violence, elle est double. Il y a la fascination et la répulsion. C'est des dynamiques qui sont toutes les deux oppressives et qui sont les deux faces de la même pièce. Donc ce qui est vraiment très important, je trouve, qu'il faut jamais oublier, ce que je voudrais dire du coup comme message, c'est que le racisme sexuel, il fait en sorte qu'on ne voit pas ce qui se joue de nous. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on dit, ah ben non, mais moi justement, j'aime bien les femmes noires parce qu'elles ont des gros culs ou qu'elles sont féroces au lit. Je ne veux pas être raciste, j'adore ça. Je dis que j'aime les femmes noires. De la même façon qu'une femme qui dit, ah moi en ce moment, j'ai envie de me faire défoncer par une grosse bite, je vais dater que des noirs. Je vais dater que des noirs. J'ai déjà vu aussi des hommes qui dans des conversations qui disent, j'ai besoin d'une femme de ménage black pour 1 € par jour. Tu commences demain à l'aube, 4 h du matin, avec le sourire, et après je te baise. Mais en fait, là, moi je quitte Freud à ce moment-là. C'est-à-dire, il n'y a plus de psychologie, de psychanalyse pour expliquer ces rapports de domination. Il faut essayer d'avoir une vision macro, anthropologique, culturelle et sociologique, bien sûr, et études de genre, bien évidemment, pour reprendre ces codes de qualification des corps arabes et des corps racisés et des corps musulmans par les hommes et les femmes, peu importe leur sexualité, et reconnecter aussi au fait que c'est une violence qui n'est pas réservée au cercle de l'intime et de l'individuel, puisque les hommes et les femmes politiques sont aussi des personnes qui viennent être dans ce système d'oppression. Le plaisir, enfin, beaucoup disent déjà que l'intime est politique. Le plaisir, il est indéniablement connecté à des structures d'oppression. C'est aussi ça qui pose problème. C'est plus grand que juste nous.
Et voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. La deuxième partie sera diffusée très prochainement. On y parlera notamment de politique, d'homo-nationalisme et de racisme institutionnalisé. Nous nous intéresserons aussi à la question de la réappropriation des termes qui tendent à fétichiser les personnes arabes, noires, musulmanes. Vous trouverez le travail de Jamal sur le compte Instagram de son podcast, Jeans Podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichissement vôtre, un homme curieux.